Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Quand je vous dis Verdun, si vous me dites trois mots qui vous viennent comme ça à l'esprit.
Long, pluvieux et triste quand même.
Bataille, souffrance et mémoire.
Je dirais que c'est un enfer. Enfin, c'est le premier mot qui me vient, mais... j'ai pas d'autre idée.
Horrifiant, terrifiant et abrutissant.
Et vous, quand je vous dis Verdun, vous pensez à quoi ? Peut-être à rien, ou peut-être à une amande enrobée de sucre. Verdun est en effet le berceau de cette confiserie qu'on appelle la Dragée. Ou peut-être encore à une toute petite ville dans l'est de la France, dont les environs furent le théâtre de l'une des batailles les plus longues, les plus terribles et les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. C'est reparti comme en 14, série spéciale consacrée au centenaire de la Grande Guerre. Après avoir planté le décor la semaine dernière et en attendant de découvrir la vie à l'arrière puis l'engagement des colonies, je vous propose cette semaine d'approcher la violence, l'absurdité mais aussi la mémoire de ce conflit. Nous partons à Verdun, à la rencontre des soldats de l'époque et des visiteurs d'aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute d'Allemagne Magazine. Guten Tag, bonjour à tous.
Ancien professeur d'histoire et ancien responsable des services éducatifs sur le champ de bataille même et dans la ville de Verdun au Centre mondial de la paix. Voilà. Vous arrivez à Verdun, pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est la première fois, peut-être pour l'ensemble, je ne sais pas.
Si vous aussi, c'est la première fois que vous vous rendez à Verdun avec vos oreilles, n'ayez crainte, Gérard Domange est un véritable passionné de la Première Guerre mondiale. Il a passé 2 jours avec un groupe d'étudiants de l'Université Paris 3 qui s'interroge sur la possibilité d'une mémoire franco-allemande. Entre 2 visites, j'ai pu l'attraper pour lui poser quelques questions. Pourquoi on est ici alors que la bataille s'est déroulée en 1916 et qu'en fait on fête le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale? On aurait pu aussi être dans un endroit qui a été symbolique pour 1914. Pourquoi Verdun, c'est symbolique de tout l'ensemble de la guerre?
Oui, effectivement, Verdun résonne au-delà des frontières nationales, résonne en Allemagne, résonne sur le continent américain. Ce nom résonne aussi par le fait de la présence à Verdun des troupes coloniales, de l'armée d'Afrique. Donc effectivement, Verdun, à elle seule, a résumé toute la guerre et a fini par non seulement... évoquer la bataille de Verdun qui était, comme je vous l'ai dit, une bataille de la France, la Grande Guerre en général, mais aujourd'hui, Verdun, c'est un nom qui parle bien au-delà de cet événement parce qu'il exprime surtout la souffrance. La souffrance et le courage. Dans la mesure où, depuis quelques décennies, on s'intéresse à la guerre d'en bas, les historiens prennent en compte finalement la psychologie, les comportements, les attitudes des soldats pour essayer de répondre à cette question qui est peut-être la seule qui vaille aujourd'hui. Comment ont-ils pu tenir aussi longtemps, plus de 4 ans, dans des conditions de vie effroyables? C'est cet aspect-là qui aujourd'hui fascine.
100 ans pour quelqu'un qui est né en 90 comme beaucoup de ces jeunes, 100 ans, ça paraît énorme. Pourquoi l'importance de la mémoire et encore plus l'importance de la mémoire franco-allemande?
Eh bien, je crois qu'il faut inscrire cette idée dans la réalité d'aujourd'hui qui est l'Europe. Et cette mémoire de Verdun, dont beaucoup voudraient qu'elle soit partagée, s'inscrit justement dans ce besoin pour les contemporains d'avoir des repères qui soient des éléments qui leur permettent de réfléchir à la situation actuelle et à leur avenir. Et là, en fait, Verdun doit conforter les gens dans l'idée que finalement ces guerres n'ont servi à personne, ont été terribles pour aussi bien le vainqueur que le que le perdant. C'est peut-être une leçon qui peut servir pour les années à venir, surtout dans un contexte de début de XXIe siècle qui n'est pas très rose.
Pour vous, mourir pour la patrie, est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui ou c'est complètement absurde ?
Das ist für mich kein Begriff. Also,
Non, pour moi, ça ne veut rien dire. Je n'ai pas fait mon service militaire. Je ne nourris pas de sentiments nationaux ou nationalistes. Non, vraiment, ça n'a pas de sens. Je me vois avant tout comme un Européen.
Moi, je ne me sens pas très concernée par l'idée d'une France qui serait supérieure ou qui vaille plus le coup, en tout cas, d'être défendue que les autres pays. En revanche, je pense que si c'était la guerre, et je pense que quand même, il y a un moment où on n'a pas le choix. Enfin, je sais pas. Je pense pas qu'on se batte pour la patrie ou qu'on meure pour la patrie, même si c'est ce qui est marqué sur les stèles.
Pour moi, mourir pour la patrie, ça veut rien dire. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. C'était à la fois la peur, mais en premier, c'était d'abord la croyance en certains idéaux, à une certaine idéologie.
La patrie, ça signifie, c'est une forme de nationalisme qui peut être respectable, mais ça induit quand même une certaine différenciation. D'après moi, être appelé pour défendre sa patrie n'a plus du tout de sens.
Au deuxième et dernier jour du voyage d'études, les étudiants français et allemands de la Sorbonne prennent la direction de la butte de Vauquois. C'est sur ce site, situé à 25 km à l'ouest de Verdun, que s'est déroulée la bataille de Vauquois de février 1915 à avril 1918.
Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette butte de Vauquois. Alors, nous sommes trois membres de l'association pour vous accueillir ce matin. Moi-même, M. Alain Jeanneson, président de l'association des Amis de Vauquois. Et puis avec moi, il y a M. Guy Collinet, qui est guide, et Yves Georges, qui est ancien professeur d'histoire. Donc vous voyez, il n'y avait pas de problème. Donc Vauquois est un haut lieu donc, de la guerre 14-18. Il faut imaginer qu'avant-guerre, vous voyez, sur cette butte, il y avait un village. C'était un village de 170 habitants. Aujourd'hui, il y a de la végétation, mais pendant ces combats, c'était un paysage lunaire. Vous voyez, quand les habitants du village de Vauquois sont rentrés à la fin de la guerre, en fin 18, eh bien, ils n'ont même pas retrouvé l'emplacement de leur maison. C'était un paysage lunaire. Donc vous voyez que celui qui avait la butte, que ce soit le français ou l'allemand, il avait un avantage énorme. Vous enlevez toute cette végétation, vous voyez, vous avez des vues très lointaines de tous côtés. Donc les Allemands ne sont pas trompés, donc ils ont pris ce village le 24 septembre 1914. C'était donc un gros avantage pour eux.
C'était des bombardements affreux, quoi.
Louis Truchon.
Vous savez, dans la bataille, c'est un bruit épouvantable. Je sais pas, c'est inimaginable le bruit d'une bataille. Des centaines de pièces de canon qui tirent en même temps.
Alors, je vous compte, puisqu'il faut qu'on revienne le même nombre.
La visite de la butte de Vauquois se poursuit avec Yves Georges, l'un des membres de l'association des Amis de Vauquois.
Donc, il faut qu'on ressorte à 10, parce que si on ne sort pas à 10, on est mal.
Allez, vous rentrez par là.
Ça va ? Quelle guerre !
Alors, on est dans une caserne, on est une véritable caserne allemande, avec ses 18 km de galerie, creusée dans la roche, ici. Il y a un hôpital, il y avait en permanence trois médecins. Il y a des cuisines, bien entendu, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Alors, ils vivaient, par contre, c'était pas le Club Med non plus. Ils dormaient sur ce genre de lit, donc lit superposé, avec treillage métallique. Vous imaginez, l'humidité déjà, la saleté, parce qu'il faut dire qu'ils se lavaient pas beaucoup. Il y avait donc des maladies. Les Allemands avaient les cuisines sur place. Alors que du côté français, la cuisine était faite à l'arrière, à 2-3 km en arrière des lignes, et les soldats qui transportaient la bouffe, ils se faisaient tirer dessus, ils trébuchaient, ils tombaient, et donc quand ils arrivaient au fond, la gamelle était vide, voilà.
On n'était pas beau à la fin de la bataille. Bon, à la fin de la bataille, moi j'étais couvert de poux, couvert de boue, les deux tympans crevés. Alors pour se débarrasser de moi, on m'envoyait en permission.
Mais ces gens qui se battent, ils n'ont pas le choix. On leur dit « tu pars à l'assaut », ils partent à l'assaut, les gars. Avant la guerre, il y a eu toute une campagne. Hein. On va reprendre l'Alsace-Lorraine, les Boches c'est l'ennemi, l'Alsace-Lorraine c'est nous. Voilà, on va. Bon, et puis on a formé pendant une génération, deux générations, des jeunes à ça, quoi.
Hein. Du côté allemand, on parle souvent du militarisme allemand. Et voilà. Est-ce que c'était concrétisé dans les tranchées?
Mais tout à fait. Hein, les Allemands, comme les Français, hein, les Allemands se battent. On leur dit de se battre, ils y vont. Alors la question, est-ce qu'aujourd'hui on dirait à nos jeunes, à vous les jeunes, on vous dirait, bon, maintenant vous allez vous battre, est-ce que vous iriez?
Jamais.
Alors, il y en a qui ont refusé. Il y en a qui ont dit, on va pas y aller. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de cela?
On les a fusillés.
Eh ben voilà. Hein, on les a fusillés pour l'exemple. Et puis, ben voilà, l'exemple a servi. Hein. Bon, alors tout à l'heure, on va avancer un peu parce qu'on va se faire bousculer. Je sais pas si vous avez une limite de temps.
100 ans après. Est-ce que vous, par exemple, vous avez peur aujourd'hui?
Non, j'ai pas peur. Je pense que... À l'époque, ils se sont vraiment dit que la guerre serait brève. Et certes, ils savaient qu'il y avait de nouveaux moyens de tuer plus rapidement et en masse. Mais ils s'imaginaient pas à quel point, en fait. Maintenant, on s'en rend vraiment compte, notamment avec la Deuxième Guerre et les bombes atomiques et tout. Je pense qu'il n'y aurait aucune adhésion de quelque population que ce soit à une guerre, parce qu'on se représente très bien ce que ça peut faire comme dégâts matériels et humains.
Non, entre la France et l'Allemagne, c'est pas possible. Après, le meurtre de masse, il a existé dans les guerres qui ont suivi. Hein. Il existe avec les génocides aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui peuvent se reproduire et il faudrait trouver un moyen d'arrêter ça.
Pourquoi c'est important d'avoir une mémoire commune entre l'Allemagne et la France?
C'est notre histoire. Enfin, je veux dire, on se fait plus la guerre, donc on n'a plus besoin de garder l'inimité des deux côtés. On n'a plus besoin de... Bien sûr, on a besoin de mémoire séparée, mais on n'a plus besoin de faire une mémoire contre l'autre.
Also in erster Linie ist es eine Garantie, dass das, was passiert ist...
C'est une leçon de l'histoire. Pour que ce qui s'est passé, ça ne se reproduise pas. C'est une garantie pour la paix entre la France et l'Allemagne. C'est pour ça que c'est si important.
Eine Garantie für den Frieden zwischen Deutschland und Frankreich. Und deswegen ist es auch so wichtig.
Un grand merci aux étudiants du Master 1 Recherche en études germaniques, à l'association Pierre Berthaud et à l'Office allemand d'échanges universitaires. Merci aussi au service des archives de la Deutsche Welle. Pour podcaster cette émission, direction la médiathèque de notre site internet. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous écrire à français@dw.de. C'était Constance Venkotze au micro. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.